Bonjour à tous, en particulier aux randonneurs et aux pèlerins. Dans cette série d'émissions, En marche vers Compostelle, l'association Compostelle 28 des Amis de Saint-Jacques d'Eure-et-Loire vous propose d'évoquer les chemins de Compostelle sous leurs différents aspects. Notre association, créée en 2001 par d'anciens pèlerins, a pour vocation d'aider et de renseigner les pèlerins en marche ou sur le départ, ainsi que tous les curieux. Sur notre site internet compostelle28.org, beaucoup de vos questions trouveront une réponse.
Lorsque, dans le cadre des rencontres d'information que Compostelle 28 organise à l'attention des candidats au départ sur le chemin de Compostelle, les questions qui reviennent à chaque fois sont...
Et pour dormir, comment ça se passe?
Il faut réserver toutes les étapes?
Vous avez une liste des hébergements?
Faut-il emporter une tente?
Ces interrogations montrent bien que l'hébergement sur le chemin est une grande inconnue. On ne sait pas très bien comment ça se passe. Ce sera le thème de notre émission de ce mois-ci.
Nous verrons les différents modes d'hébergement qui existent sur la voie de Tours, la voie vers Compostelle qui passe chez nous en Eure-et-Loire. Et nous évoquerons rapidement la France et l'Espagne. En Eure-et-Loire, où le passage des pèlerins est fort modeste, notre association, Compostelle 28, a mis en place depuis une dizaine d'années un réseau d'accueil pèlerin tout au long du chemin dans sa traversée du département. De Dreux et d'Épernon vers Chartres, et de Chartres à Cloyes sur le Loir.
Il s'agit d'une cinquantaine d'adresses, principalement des familles d'accueil, quelques gîtes communaux et accueils paroissiaux.
Et comment trouve-t-on ces adresses?
L'association affiche sur son site internet www.compostelle28.org un numéro de téléphone. Denis, qui est au bout du fil, nous en explique le fonctionnement.
Oui, bonjour, je m'appelle Denis, j'habite Mainvilliers et j'ai en ma possession le téléphone de l'association Compostelle 28, qui est le 06 52 43 66 62. À ce numéro de téléphone, je contacte des pèlerins qui sont en recherche d'un hébergement, d'un itinéraire, de renseignements concernant le chemin de Compostelle à travers l'Eure-et-Loire. Alors, ils me téléphonent pour avoir un hébergement, en général un ou deux jours avant, ce qui est le mieux. Et puis, je leur téléphone suivant une liste qu'on a à disposition, je leur communique le numéro des personnes qui peuvent les accueillir, et ça se divise en plusieurs catégories. Nous avons des hébergements traditionnels, hôtellerie, chambre d'hôte, etc. Nous avons des hébergements qui sont donativos, c'est-à-dire qu'on laisse ce qu'on veut lors de notre passage, et nous avons les hébergements également complètement famille, c'est-à-dire que les gens sont accueillis dans des familles et ils sont nourris, logés, donc c'est le top pour le pèlerin. Alors, ces personnes que j'ai au téléphone, suivant leur itinéraire, je leur communique le numéro de la personne qui va les héberger après avoir contacté la personne qui va les héberger. Parce que il y a quand même une question de déontologie, savoir prendre les devants quand même, et puis ne pas divulguer des numéros comme ça à droite à gauche. Voilà en bref l'objet de ma fonction à Compostelle 28. Alors j'ai eu aussi des personnes qui ont hébergé à la maison, et j'ai eu effectivement Jean-Claude Benazet qui a composé l'hymne de Ultraya, qui est passé à la maison lors d'un passage. Il faisait un chemin Alsace-Bretagne, et je me rappelle avoir eu avec lui un très bon contact. Je l'ai remis sur le chemin le lendemain matin. Il était 6h30 du matin, par nuit noire, et je lui dis: mais arrête, tu pars comme ça, tu vas pas trouver ton chemin. Il me dit: si, je vais me fier à la ligne blanche sur la route. C'était assez bizarre d'ailleurs. Voilà donc brièvement mon accueil pèlerin au sein de Compostelle 28.
Donativo. Vous avez entendu ce mot? Donativo, don. De quoi parle-t-on? C'est une offrande du pèlerin. Et par extension, la libre participation aux frais dans certains hébergements dont c'est le principe de fonctionnement, en France comme en Espagne.
Parmi les hébergements qui se sont ouverts, gîtes privés ou communaux, chambres d'hôtes, communautés religieuses, certains ont fait le choix de maintenir la tradition ancestrale du donativo, offrant gîtes et couverts à la libre participation du pèlerin, nous dit Céline Hoyot dans le journal La Croix du 7 août 2015.
Les motivations des familles qui accueillent les pèlerins sont toujours les mêmes. Désir de rendre ce qu'elles ont reçu lorsqu'elles-mêmes ou lorsqu'un des membres de la famille ont fait le chemin, désir de partager leur vécu sur le chemin, joie de rencontrer des inconnus à la recherche de valeurs partagées, découvrir des cultures différentes, joie d'apporter du réconfort à des pèlerins éprouvés par la marche, découverte de la solitude. Parfois même, leur porter assistance pour les aider à régler de petits problèmes, de santé, de chaussures qui font mal aux pieds et bien d'autres choses.
L'accueil consiste, pour les accueillants, à offrir au pèlerin ce qui lui est indispensable à son étape, le gîte et le couvert, plus la douche et, si besoin, de quoi laver son linge. Et toujours, le pèlerin est accueilli comme un membre de la famille autour d'un bon dîner, avant une soirée d'échange. Régulièrement, Compostelle 28 organise une réunion des accueillants en Eure-et-Loire. Cette année, c'était à la Bordinière Saint-Loup. Nous en avons profité pour demander à quelques-uns d'entre eux les raisons qui les poussent à accueillir des pèlerins. Qu'est-ce que cela leur apporte? Ont-ils des anecdotes?
Écoutons d'abord ce que nous ont dit Laurence et Frédéric.
Alors, tout simplement, quand on a découvert qu'on était sur le chemin de Saint-Jacques, c'était quelque chose qui s'est passé naturellement. D'un seul coup, on s'est dit, mais pourquoi on n'accueillerait pas les gens? Nous, on est des gens qui aimons la vie en général, qui aimons les échanges. Et voilà, tout de suite, j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un de l'association et ça s'est fait. J'ai vu Claire le vendredi et le samedi soir, on avait un pèlerin, quoi, en gros. Ce qui nous plaît, c'est les échanges, c'est le partage, c'est tout ça, quoi. C'est tellement magnifique d'avoir des rapports humains.
Alors en plus, nous, le fait d'être sur le chemin, c'est que personnellement, on avait acheté une roulotte pour loisirs. Et en fait, la combinaison des deux faisait qu'on avait vraiment envie d'accueillir les pèlerins, quoi. Et en fait, tous les pèlerins qu'on a accueillis sont émerveillés quand ils viennent chez nous, le fait de dormir dans cette roulotte. Donc c'est une vraie roulotte gitane.
À chaque fois, c'est un ravissement. On a eu des échanges toute la soirée. Le lendemain matin, ils sont heureux. Nous, on est heureux de les voir heureux. Et puis voilà, quoi. On a besoin de ça maintenant, à cette époque qui est si dure, où il y a tellement de problèmes. Et là, on rencontre des gens formidables. Voilà.
Oui, puis c'est un mélange multiculturel, en fait, parce qu'on a eu la chance aussi d'accueillir des pèlerins qui venaient de l'étranger. Et donc, même pas forcément dans la même langue, mais on arrive toujours à se comprendre, quoi. C'est vraiment des échanges merveilleux, en fait. Et les gens, certains sont partis avec les larmes aux yeux de chez nous. Donc ça, c'est tout pour nous, quoi.
Claire, qu'évoque Laurence, tenait à cette époque le téléphone d'accueil, maintenant en possession de Denis, que vous avez entendu précédemment.
On leur a laissé la maison,
nous dit Frédéric. Il existe une très grande confiance spontanée entre les accueillants et le pèlerin. Personnellement, à plusieurs reprises sur mon chemin, lorsque j'étais en contact avec un accueillant, il me disait, après que nous ayons convenu du rendez-vous,
« Si tu arrives avant moi, ce n'est pas grave. La porte n'est pas fermée à clé. Tu la pousses, tu entres et tu te mets à l'aise. » Il y a des bières au frigo. Serre-toi, j'arrive pour préparer le dîner.
Cette grande confiance ne doit toutefois pas faire perdre toute prudence. Les coquillards existent toujours. Ces marcheurs dépourvus de scrupules se font passer pour pèlerins afin d'abuser de la générosité de certaines personnes de bonne volonté sous le fallacieux prétexte d'avoir perdu leurs papiers, dont la crédentiale.
Crédentiale, encore un code secret? C'est quoi une crédentiale?
La crédentiale est une lettre de recommandation diffusée par les associations jacquaires auprès des pèlerins, signe de leur identité. C'est l'équivalent de la créanciale, plus rare, diffusée par l'Église de France. Les deux devraient d'ailleurs fusionner rapidement. En France, la crédentiale est obligatoire pour accéder à certains gîtes associatifs. En Espagne, elle est obligatoire dans les auberges réservées aux pèlerins. La crédentiale permet d'obtenir la Compostela. La Compostella est un certificat de pèlerinage remis aux pèlerins à son arrivée à Compostelle par le Bureau des pèlerinages de Santiago. Elle permet aussi aux pèlerins de garder une trace chronologique de son pèlerinage grâce aux tampons, les accueillants rencontrés, des gîtes ou des offices de tourisme des villes d'étape. Le pèlerin est toujours très fier de sa crédentiale. Pour lui, le plus beau souvenir de son pèlerinage, qui, à travers quelques pages cartonnées, résume son chemin et ravive ses merveilleux souvenirs.
Écoutons Josette nous dire son expérience d'accueillante et son aide à une pèlerine en détresse.
Je suis devenue accueillante parce que j'ai fait le chemin plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé être accueillie par des gens avec le sourire. Voilà. Alors j'essaie le plus possible d'être souriante et aimable avec les gens qui viennent chez moi.
Est-ce que ça répond à une tradition ?
Oh, pas du tout. Non. Un jour, j'ai dit, il faut que j'aille à Saint-Jacques. Et je suis partie à Saint-Jacques. J'ai fait plusieurs fois. Et puis voilà. C'est très égoïste parce que ça m'apporte beaucoup de bonheur parce que je peux revivre mon chemin à moi. Voilà. Il y a une chose qui m'a marquée un petit peu, c'est que j'avais accueilli une Canadienne. Je pense que tous les gens chez qui elle a été, elle a dû les marquer. Elle voulait faire Saint-Jacques pour ses 60 ans. Elle avait la maladie de Parkinson. Voilà. Et donc, je l'ai accueillie, puis après, elle est partie vers Tours, et une bonne semaine après Chartres, ou 10 jours, j'ai eu un coup de fil. Elle était perdue à Sainte-Maure-de-Touraine. Elle ne pouvait plus avancer. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai dit, il y a un bus à Sainte-Maure, tu vas à la gare de Tours, tu prends le bus pour Chartres et je t'attendrai à la gare. Elle a passé 3 jours à la maison. Elle a annulé tout ce qu'elle avait prévu de faire. Elle a retrouvé un billet d'avion pour repartir au Canada. J'ai eu des nouvelles, ça va pas trop mal. J'espère que ça va s'arranger.
Le secours que Josette a apporté à cette pèlerine canadienne me rappelle une anecdote que j'ai personnellement vécue pendant mon chemin avec un jeune Québécois. Il s'appelle Raphaël, jeune Québécois d'une grosse vingtaine d'années, en France, après un périple autour du monde, disposant de 3 mois.
Juste le temps d'aller de Paris à Compostelle avant de reprendre mon avion pour Québec, décide-t-il.
Le voilà donc parti de Paris. Je le rencontre à Poitiers. Nous sympathisons et marchons quelques jours ensemble. À Sainte, nos chemins se séparent. Par Radio Camino, le réseau informel qui relie les pèlerins en marche, j'apprends qu'il est en panne dans les Landes, arrêté par les médecins, pour soigner impérativement son pied qu'il avait fortement abîmé à cause de chaussures inadaptées. Et je restais sans nouvelles à son sujet. Mon chemin se déroule, et à San Domingo de la Calçada, miracle, en faisant les achats pour le casse-croûte de l'étape du lendemain, qui vois-je ? Raphaël.
Presque un mois après que nos chemins se soient séparés à Sainte, il me raconte ce qui lui est arrivé. Les chaussures qui le blessent, leur remplacement par une paire de chaussures neuves inadaptées. Les blessures aux pieds qui s'ensuivent, son arrêt impératif par le médecin, le retard qui en découle sur son plan de marche, la remise en question de son arrivée à Paris pour prendre son avion pour Québec, et sa prise en charge par les habitants de ce petit village des Landes qui voient son désarroi, conséquence de ses misères. Ses habitants l'ont pris sous leur aile, l'aidant à guérir ses pieds et lui faisant cadeau d'un vieux vélo.
Un vélo de fille, sans frein, ni changement de vitesse,
précise Raphaël. Avec ce vélo, en se joignant à un groupe de pèlerins anglais cyclistes, il a pu refaire son retard et arriver à Compostelle à temps pour rejoindre Paris et prendre son avion pour Québec. Miracle du chemin.
Écoutons Noël nous dire les bienfaits du partage qu'elle ressent en accueillant des pèlerins.
Alors, on a décidé d'être accueillants, d'une part parce qu'on a fait le chemin en entier, et c'est une façon de rendre ce qu'on a reçu sur ce chemin, c'est-à-dire les rencontres avec des gens super... super sympa, un partage, voilà, je crois que c'est surtout ça, c'est le partage. On est tous pareils en fait, qu'on ait un niveau social autre ou n'importe, c'est le partage avec les gens, le fait de partager, bah, théoriquement ça devrait, oui. Voilà, c'est... partager ce qu'on a. C'est vrai qu'on devient tellement méfiant vis-à-vis de tout le monde que sur le chemin, c'est vraiment quelque chose qui passe complètement à travers tout ça, en fait. Ben, nous, ça nous apporte... ce qui est dommage, c'est qu'on n'en a pas suffisamment, en fait. Parce que c'est vraiment un élan. C'est difficile Il n'y a pas d'a priori, ça passe tout seul en fait.
Si, jusqu'à Tours, l'hébergement familial est le plus répandu, plus au sud, du fait d'une fréquentation de pèlerins plus élevée, les gîtes communaux deviennent plus nombreux. Il suffit de contacter les mairies ou offices de tourisme. Les gîtes sont ouverts aux pèlerins sur présentation de leurs crédentials à un prix fort modique. Très souvent, les conditions de confort sont bonnes et en plus des sanitaires et du couchage, un réchaud et un évier sont disponibles, permettant ainsi de cuisiner simplement. Le pèlerin devra anticiper et faire ses achats au préalable. Eva Maria nous dit la joie profonde qu'elle reçoit des pèlerins qu'elle accueille.
Parce que déjà, c'est mon époque. Et c'est l'époque aussi des pèlerins que je reçois. Et je suis accueillante parce que j'adore cet échange. Je les reçois comme si c'était des membres de ma famille. Et ils sont membres de ma famille parce que j'ai une grande foi et j'avance avec la foi. Pour moi, la foi, c'est pas que l'étiquette religieuse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Donc ils sont la bienvenue, chez moi, dès qu'ils ont passé le portail, sans aucune question, juste les recevoir les bras ouverts, comme si c'était mon frère ou ma sœur. Alors, puisque ça répond à une tradition, ça répond surtout à mon cœur. Ma tradition, c'est quoi une tradition ? C'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose non. J'avance avec tout ce qui se passe sur l'instant présent. Et ces échanges, au moment où on les reçoit, c'est tellement d'une richesse. On a des échanges. Sinon, on ne peut pas marcher. On peut les recevoir et en les accueillant, on marche avec eux. Eux marchent devant nous. Où on va marcher après dans leurs pas, où on a marché déjà avant dans leurs pas. Mais finalement, entre ces échanges et ce chemin, on est constamment ensemble. Et on est sur le même lien. Et c'est surtout ça, pourquoi accueillir les pèlerins. C'est parce qu'on reste sur le même lien, sur ce qu'on a découvert nous-mêmes sur le chemin. Quelle plus grande richesse on peut avoir en restant chez soi, sans bouger, d'ouvrir sa porte à toute personne, de tout niveau, sans étiquette. On connaît pas. Quand on marche sur le chemin, on ne sait pas qui on rencontre. Mais quand on les accueille, si on a le même courage, on ne connaît pas non plus qui on rencontre et on les découvre. Et ils nous donnent juste ce qu'ils ont envie de nous donner, mais on leur donne aussi, nous, ce qu'on a envie de leur donner. Et déjà, c'est de les accueillir parce qu'on connaît les difficultés du chemin. Et on se dit que tout ce qu'on leur donne là, c'est une compréhension, c'est une aide, une écoute aussi. Aussi bien vice-versa d'un côté que de l'autre. Et on les aide à avancer. Parce qu'il y a quelques kilomètres pour arriver, s'ils se sont donné un but qui est celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui, sachant en arrivant, on s'arrête pas toujours là. Des fois, on s'arrête avant parce qu'on a appris, on sait que notre chemin s'arrête là et que c'est pas la peine de forcer parce qu'on a eu sur ces rencontres suffisamment de richesse pour pouvoir s'apercevoir qu'on n'est pas obligé de marcher pour être sur le chemin. Alors, une anecdote particulièrement remarquable avec tous mes pèlerins, j'en ai. Peut-être là où j'ai en tête trois pèlerines qui arrivent, complètement épuisées, toutes boitant parce qu'elles avaient bien chauffé leurs pieds, et que dès qu'elles sont arrivées, évidemment, le petit accueil dans la cour, très chaleureux, avec ce petit thé ou cette petite boisson fraîche, selon ce qu'elles veulent, où j'ai apporté tout de suite le bac, une grande, grande bassine, mais quand je dis bassine, c'est vraiment presque une piscine, avec de l'eau tiède dedans, de la lavande, et où je leur ai fait toutes tremper, toutes les trois en guise de table. C'était devenu cette piscine où elles avaient les pieds dedans. Et je crois que ça, c'est des choses merveilleuses. Et quand je les ai senties gênées, je dis, écoutez, c'est pas un problème, je mets les miens avec vous.
Parfois, les hébergements se font rares. Pas de famille d'accueil, pas de gîte. Il faut alors se résoudre à voir du côté des hôtels ou chambres d'hôtes. Les petits hôtels dans les petites villes ont le charme de la simplicité. Certes, leur équipement simple et même parfois désuet ne leur assure pas une étoile, mais très souvent la gentillesse et l'accueil spécial pèlerin remplacent largement la douche ou le téléphone dans la chambre. Malgré des sanitaires au fond de la cour, j'ai souvenir d'un hôtel à Dax, fort sympathique avec un dîner aux portions, disons, renforcées.
Michel nous dit l'enrichissement que lui procurent les rencontres avec les pèlerins.
Eh bien, nous avons été sur le chemin de Compostelle en 2005 et en 2006, à vélo, avec un groupe. Donc à partir de ce moment-là, on a fait une petite station à Cloix, au pied de la statue, pour l'accueil pèlerin. Et nous sommes mis accueillants à la suite de cette aventure à Compostelle. Pourquoi ?
Ouais.
Bah, parce que sur notre chemin, nous avons été très bien accueillis. Et puis bon, ça nous semblait intéressant de rencontrer des gens d'un peu de toutes les... De toutes origines, de toutes confessions, de toutes. Ça nous paraissait enrichissant d'être accueillant. Nous avons découvert le chemin de Compostelle personnellement, donc c'était pas quelque chose qui nous motivait au départ. Et finalement, on a vécu une bonne aventure et je crois que ça fait partie de un petit peu de l'esprit de Compostelle, de rencontrer, d'échanger, de finalement ce pèlerinage, si on peut l'appeler comme ça, qui n'est pas l'apanage de tout le monde, mais c'est sur le chemin qu'il se passe beaucoup de choses. Je crois que je l'ai dit, hein, un enrichissement personnel, et le plaisir d'échanger, aussi le souci d'accueillir celui qui passe, de faire pour le mieux pour qu'il ait une bonne nuit, un bon repas, un bon petit-déj, et puis repartir de plus belle. La difficulté pour nous, c'est l'accueil des étrangers quand on ne maîtrise pas l'anglais.
En Espagne, une fois les Pyrénées franchies, les choses sont très différentes. Les albergues, les auberges pour pèlerins, sont très fréquentes, jalonnant régulièrement le chemin. Souvent fraîchement construites ou rénovées, elles offrent un bon confort. Les albergues paroissiales sont souvent tenues par des communautés étrangères. Il existe aussi plusieurs hébergements collectifs, comme à Reliegos et León. Celui de Roncevaux, dont les images ont longtemps pu effrayer le candidat pèlerin, lit superposé, entassé par dizaines dans une salle voûtée, évoquait une caserne. C'est maintenant fini. Si les dortoirs sont toujours collectifs, ils sont divisés en box de 4 lits, très pratiques et confortables, même si l'accueil est d'une rigueur quasi militaire. Douche et même ascenseur existent dans le bâtiment. Quel que soit le type de logement, le pèlerin y est toujours accueilli généreusement.
Écoutons Jean-Claude nous dire comment il rend ce qu'il a reçu sur son chemin en ouvrant sa maison aux pèlerins de passage.
Donc j'ai envie d'être accueillant parce que c'est pour faire un petit peu le retour, pour remercier un petit peu tous les gens qui m'ont accueilli le lendemain quand je suis parti vers Saint-Jacques. J'ai eu tellement de bons souvenirs que je voudrais partager avec les futurs gens qui descendront sur Saint-Jacques pour expliquer un petit peu, faire le côté convivial, partager des souvenirs et puis peut-être donner des informations aussi les gens qui ne savent pas trop comment, comme moi quand j'ai démarré je ne savais pas trop, donc j'ai des retours d'infos. On peut pas dire que j'ai pu particulièrement, donc il y a toujours on a évoqué ça tout à l'heure d'ailleurs, le colonel, le fameux colonel où j'étais accueilli d'une manière on va dire extraordinaire, hein, où tout est. Donc l'accueil par lui-même, c'était comme le personnage. Il avait tout été un petit peu vieux, mais tellement sympa. On a discuté. Et puis il y a eu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? J'ai eu sur Bordeaux, on a été pas mal accueillis. Où j'étais peut-être le plus déçu, c'était par contre, parce qu'il faut en parler aussi, c'est en arrivant avant à Ostaba, où j'étais un petit peu déçu.
On ne peut parler d'accueil sans parler d'hospitalité, un des maîtres mots des chemins de Saint-Jacques, la valeur phare de ces chemins. L'hospitalité, c'est la manière ouverte, chaleureuse, bienveillante et généreuse d'accueillir et de traiter ses hôtes. Au Moyen-Âge, le devoir d'hospitalité faisait partie des sept œuvres de miséricorde. La création des hôpitaux a été une première forme d'organisation collective de ce devoir. Ces lieux hospitaliers étaient disséminés dans tout le monde chrétien et donc sur le chemin de Saint-Jacques. Ils n'étaient pas réservés uniquement aux pèlerins. Les plus connus, certains, encore visibles aujourd'hui, étaient la Domerie d'Aubrac, l'Hospice d'Ostabat, l'Hôpital Saint-Blaise d'Oloron-Sainte-Marie, de Saint-Gilles-du-Gard, les hospitalités de Roncevaux, de Saint-Anton, près de Castro-Rérise, de Léon, d'Auxébréhéro. Sur la voie de Tours, celui de Ponce est resté presque intact. Mais bien d'autres lieux, moins connus, accueillaient les pèlerins. En Eure-et-Loire, à notre connaissance, il en existait un à Chenonville, détruit, remplacé aujourd'hui par le château de la Fédération des chasseurs. Aujourd'hui, sur les chemins, l'hospitalité est pratiquée par des communautés et des particuliers s'inspirant de cette tradition chrétienne d'ouverture et d'accueil des intéressés. Elle l'est aussi par des organismes commerciaux.
La prise en compte des besoins humanistes de l'accueil permet de passer d'une relation courtoise à une relation authentique, celle qui touche au cœur, celle qui laissera des traces. Cette dimension humaine sous-tend le don que l'on trouve dans l'hospitalité, avec la création d'une expérience qui permet à l'invité de se sentir comme chez lui.
Offrir l'hospitalité, c'est donner quelque chose à quelqu'un, c'est présenter et offrir quelque chose de soi, nous dit le professeur Alain Montandon, auteur du livre de l'hospitalité.
« Viens, étranger, tu feras du bien à celui qui te reçoit », nous dit encore un proverbe africain.
Dès qu'il a posé le premier pas sur le chemin, le pèlerin ressent ce souffle de fraternité et d'humanité, constate Brigitte Alésinas dans son ouvrage « Compostelle, les mots du chemin ».
L'histoire des chemins a retenu parmi beaucoup d'autres le nom de quelques hommes remarquables. L'abbé Sébastien Idoy, curé de Navarinx de 1981 à 2001, est une des grandes figures du chemin, bien connue des pèlerins qu'il a accueillis avec une hospitalité légendaire dans son presbytère. Louis Janin, d'abord pèlerin, puis hospitalier bénévole et cofondateur de l'association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, a passé près de 60 années sur ces chemins. Il a fait de l'hospitalité une philosophie de vie, gardant toujours sur sa table l'assiette du pauvre. L'abbé Bernès recevait les pèlerins à Montesquieu. Le père Marcos servait la soupe à l'ail dans des locaux datant du XVIe siècle à San Juan de Ortega.
Nous espérons que cette émission vous aura éclairé sur les modes d'accueil trouvés sur le chemin. Vous avez entendu plusieurs familles d'accueil qui ouvrent leur maison en toute générosité aux pèlerins de passage. Ils vous ont dit ce qui les poussait à pratiquer cette hospitalité. Volonté de partage, d'écoute, découverte de cultures différentes, rencontre de personnalités étonnantes, moyen de faire le chemin dans sa tête par procuration, souhait de rendre ce qui a été reçu. Notre émission se termine et nous espérons vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, si cette aventure vous inspire, vous pouvez nous contacter par notre site internet www.compostelle28.org ou à l'adresse mail contact@compostelle28.org ou par téléphone au 06 52 43 66 62. Les membres de l'association se feront un plaisir de vous accompagner, vous renseigner et vous conseiller si vous le désirez avant de partir pour cette aventure humaine hors des sentiers battus. Merci de nous donner votre avis, de nous poser des questions et de nous encourager sur le site de Radio Grand Ciel ou celui de notre association. Nous vous disons au revoir, à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel. Al creerse deshonrado, se fue a su lugar.